Christine Mattet.
Le nouvel horaire CFF va bouleverser les habitudes, surtout en Suisse romande. Mais des changements sont annoncés dans le reste de la Suisse aussi. Les CFF dévoilent ce matin l'apparition de nouveaux trains de nuit et davantage de liaisons vers les pays limitrophes. Le nouvel horaire CFF entrera en vigueur le dimanche 15 décembre. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a assuré ce matin que son gouvernement et les agences de l'État ont assumé leurs responsabilités dès le début des inondations tragiques qui ont ravagé Valence et le sud-est de l'Espagne le 29 octobre dernier. Si vous voulez trouver des coupables, cherchez-les, mais ne pointez pas du doigt les services publics qui ont fait leur devoir, a déclaré le dirigeant socialiste. Il s'exprimait devant le Parlement espagnol sur sa gestion de la catastrophe. Le Premier ministre qui s'est dit par ailleurs totalement ouvert à la création d'une commission d'enquête. Place à la défense cet après-midi dans le procès des viols de Mazan. En France, l'accusation a prononcé ce matin ses réquisitions contre les quatre derniers des 51 accusés. Des peines de 4 à 20 ans ont été demandées. Le relais passe ensuite à la défense avec l'avocate de Dominique Pellicot, clé de voûte de cette affaire. Une trentaine de robes noires vont se succéder jusqu'au 13 décembre à Avignon pour les 50 co-accusés. Le verdict est attendu le 20 décembre ou plus tard. La liberté et la souveraineté de l'Union européenne dépendent plus que jamais de sa puissance économique, a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Dans son discours devant les eurodéputés, Ursula von der Leyen a insisté sur sa volonté de mettre en place un plan pour la décarbonation et la compétitivité de l'Europe. Les eurodéputés doivent approuver à la mi-journée la nouvelle équipe de la Commission désignée pour les 5 prochaines années. Au Proche-Orient, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur à 3h du matin. Après plus d'un an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte, l'armée israélienne dispose de 60 jours pour se retirer du Liban. La compagnie aérienne britannique EasyJet annonce ce matin un bénéfice net de plus de 500 millions de francs sur son exercice 2023-2024, un bénéfice en hausse de près de 40% par rapport à l'an passé. La compagnie aérienne profite essentiellement des résultats records du nombre de passagers durant l'été. La détention sans fondement en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est tout simplement inacceptable, a déclaré ce matin le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Boualem Sansal, qui a critiqué les dirigeants algériens de nombreuses reprises, a été arrêté mi-novembre alors qu'il arrivait dans son pays natal depuis la France. Des groupes de défense de l'environnement dénoncent la présence à Busan, en Corée du Sud, de dizaines de lobbyistes de l'industrie pétrochimique aux négociations de l'ONU sur un traité contre la pollution plastique. Les accusant d'obstruction et de désinformation. Plus de 170 pays participent à ce cinquième et dernier cycle de négociations pour un traité contre la pollution plastique sous l'égide de l'ONU. Et ils ont jusqu'au 1er décembre pour parvenir à un accord au terme de 2 ans de pourparlers. La météo, le temps restera bien ensoleillé ce mercredi 27 novembre jusqu'en soirée où les nuages seront de retour. Quelques précipitations sont attendues dans la nuit avec une limite pluie-neige vers 2200 mètres, 10 degrés au thermomètre en pleine au meilleur de l'après-midi, plus 3 degrés à 2000 mètres.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Infotrafic RTS.
Dans les montagnes neuchâteloises, la route qui relie La Chaux-de-Fonds au col des Roches est fermée entre le giratoire du Tourbillon et le Cré du Locle. En direction de la frontière, un accident s'est produit sur ce tronçon.
Avec la RTS, célébrons le 30e anniversaire des Swiss Radio Days. Pour fêter la parution des volumes 49 et 50 de la collection d'archives jazz de la SSR, la RTS et TCB réunissent deux pianistes exceptionnels, Marc Copland et Dado Moroni. Le 4 décembre à la RTS à Lausanne, le 6 à la Vidondée de Ried et le 8 au Moods de Zurich, vivez à chaque fois un double concert exceptionnel. Retrouvez toutes les infos sur avecvous.rts.ch. Le concert de Lausanne sera en direct dans Jazz sur RTS La Première mercredi 4 décembre à 20h et dans la note bleue sur RTS Espace 2 dimanche 5 janvier à 19h30. Keep swinging, guys!
Tribu, Julien Magnolet.
Thank you.
Savoir bien parler est un atout dans la vie. La capacité à bien s'exprimer est utile autant au travail que dans nos relations amicales et amoureuses. L'éloquence est un art, il peut aussi être une arme. Alors comment s'apprend cette éloquence? Est-il possible de muscler sa capacité à bien s'exprimer? Et trop bien parler peut-il être excluant? Nous allons en parler avec vous, Cyrine Asfour. Bonjour.
Bonjour Julien Magnolet.
Alors vous avez gagné le concours roman d'éloquence 2024, vous avez fait des études de relations internationales à l'Université de Genève, vous faites actuellement un master en droit des communications et du spatial, c'est du côté de l'Université Paris-Saclay. Merci d'être en direct avec nous depuis Paris ce matin, Cyrine Asfour. Pour vous, qu'est-ce que c'est que de bien parler?
Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier de me recevoir aujourd'hui. Pour répondre à votre question, bien parler, je pense que cela inclut deux aspects. Le premier aspect étant la forme, liée au rythme de voix, à la posture, mais également le fond. Et je pense que, qu'en ce qui est du fond, c'est l'idée d'être convaincant, de peu importe le message, c'est l'idée de s'adapter à son public, de le prendre en compte, de prendre en compte son interlocuteur.
Et comment ça s'apprend? Est-ce qu'on apprend ça dès le plus jeune âge, je sais pas, dans sa famille? Comment ça s'est passé peut-être pour vous?
Alors pour moi, ça n'a pas, ce n'est pas, je n'ai pas eu l'éloquence dès l'enfance, loin de là. Au contraire, j'ai grandi dans un environnement où la parole était, disons, plutôt emplie de tabous, avec beaucoup de non-dits. J'ai découvert l'éloquence bien plus tard à l'université, lorsque je me suis rendue au Club Genevois de Débat, qui est donc une association à l'Université de Genève ouverte à tous et qui propose des formations et des rencontres hebdomadaires sur le thème du débat, de l'entraînement. Alors je pense que j'ai toujours eu une admiration pour ceux qui réussissaient à s'exprimer.
Mais ça veut dire quand même, ah tiens, il y a une porte qui s'ouvre, on entend, on vous voit, Alexandre Lemierre qui s'occupe de la technique du côté de Paris, il est très éloquent dans son silence. Ça veut dire, Cyrine Asfour, que jusqu'à quasiment l'âge adulte, c'est-à-dire 18 ans, 20 ans, vous parliez moins bien qu'aujourd'hui, vous avez tout appris dans ce club de débat ou bien vous avez quand même une sorte de, je sais pas, une aptitude à bien parler auparavant?
Alors, je ne pense pas que j'ai une aptitude particulière. Au contraire, ce sont bien des techniques. Vous savez, tout ce qui touche à la rhétorique, à l'éloquence, sont en réalité un ensemble de techniques, que ce soit pour la construction du discours ou pour le choix des arguments. Vous avez majoritairement trois types d'arguments qui vous permettent de, encore une fois, de vous adapter à votre interlocuteur, de faire passer votre message en utilisant différentes stratégies. Ce sont des stratégies que j'ai apprises notamment alors, au cours de mes études de droit, mais surtout au cours donc de ces sessions à l'Université de Genève.
Et vous m'avez dit que vous avez découvert que votre éloquence vous rapproche de votre vulnérabilité. Ça peut paraître étonnant comme ça, parce qu'on peut voir la parole comme quelque chose d'un peu protecteur, comme ça qu'on peut endosser comme un habit qui nous protège. En quoi votre éloquence vous rapproche de votre vulnérabilité?
Alors, je dirais que c'est la parole, la recherche du mot juste. Je pense que nous avons tous ressenti cette satisfaction à réussir à mettre des mots sur ce que nous ressentons, sur notre vécu. Et c'est pour cette raison que la parole, que l'éloquence a eu une portée thérapeutique pour moi. C'est le fait de réussir à trouver cette expression et ensuite de la porter, une fois qu'elle est formulée, de la transmettre. Et c'est comme si la perception, le ressenti se concrétisait, qu'il était partagé et que, et voilà, il était évacué.
Un des aspects que vous défendez dans l'éloquence, c'est la question de l'émotion. Pour vous, c'est la clé de l'éloquence, savoir toucher les gens?
Oui, je pense que... Alors, ce que nous pouvons apprendre dans la rhétorique, c'est que l'émotion est l'un des arguments, qui est l'une des stratégies possibles. Je pense que l'émotion... Pour moi, dans ces formats, dans ces concours, à ce qui a pu et ce qui a pu me porter vers la victoire, c'est, je pense, ce qui reste. Et je trouve ça assez impressionnant d'essayer de trouver l'universalité dans l'émotion. Et c'est peut-être ce qui trahit finalement que je suis assez humaniste.
Mmh. C'est intéressant parce que vous le disiez, il y a plusieurs techniques hein, dans l'éloquence. Une de celles-ci, c'est la question de la logique, faire appel à la logique. Pour vous, c'est moins intéressant ou c'est moins efficace dans le fond, dans un discours par exemple ?
Alors, je ne pense pas que ce soit moins efficace. Je pense que tout dépend de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Si tout dépend du message que vous souhaitez faire passer. Alors, c'est sûr que si vous tentez de défendre une cause qui ne fait pas l'unanimité auprès de votre audience, il sera difficile de faire ressentir la logique. Il faudra essayer de trouver une émotion qui fera ressentir la cause à votre auditoire. Mais lorsque vous êtes face à un auditoire qui est convaincu ou qui est peut-être un auditoire, disons, qui a une certaine technicité dans votre domaine, bien sûr que les arguments logiques seront plutôt ceux finalement recherchés que les arguments émotionnels.
Mmh. C'est intéressant parce que votre défense lors de ce concours d'éloquence roman 2024, vous avez choisi de parler de la laideur, vous avez fait un éloge de la laideur et c'est vrai que là on a un sujet assez émotionnel. Pourquoi ce choix-là? J'ai écouté un tout petit peu les autres participants, c'était parfois plus sur la question de la modernité, un tout petit peu plus peut-être philosophique comme ça. Pourquoi ce choix-là?
Alors ce que j'apprécie avec la laideur, et c'est l'un des arguments que j'évoquais dans mon discours, c'est que pour moi, la laideur est révélatrice d'une authenticité existentielle, dans le sens où finalement, la laideur est ce qui non seulement nous rapproche de la vie, mais ce qui est peut-être le plus révélateur de l'authenticité de la vie, de nos épreuves, de... Lorsque, comme je le disais dans mon discours, lorsque nous traversons la trahison, le deuil, lorsque nous passons toutes ces épreuves qui font partie de la vie, finalement, est-ce que nous sommes pas plus laids que ce que nous sommes beaux dans ces moments-là?
La question de l'éloquence, on dit parfois aujourd'hui de la jeunesse qu'elle a de la peine à s'exprimer, même des fois de la peine à aborder les gens. Vous êtes jeune vous-même, Cyrine Asfour, vous avez 24 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, peut-être parmi vos comparses des universités? Est-ce que les jeunes ont peut-être plus de peine à s'exprimer que par le passé?
Alors c'est vrai que... Au sein du club Jeune Voix de débat, je tiens à préciser que vous avez tous les âges. Donc, je n'ai pas ressenti que c'était tant générationnel. Mais il est vrai que lorsque nous voyons les candidats des concours romans d'éloquence, je ne pense pas qu'il soit question, encore une fois, d'une génération. Mais l'éloquence est très en lien et très dépendante de la question de la confiance en soi. Pour se présenter à un concours d'éloquence, il faut s'être persuadé d'être intéressant, d'être convaincant. Et c'est peut-être plus ce qui manque, plus une question de confiance en soi que de compétences et de capacité à parler.
Et là aussi, est-ce que ça se muscle, la confiance en soi, le fait de se sentir légitime? Là, c'est assez profond peut-être comme travail à effectuer.
Alors c'est très dur et puis c'est de se convaincre aussi parfois de positions que nous défendrions pas forcément au premier abord. Et puis se sentir légitime, c'est finalement dans ce cadre-là, c'est questionner la portée de sa parole. Qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, femme, issue d'une minorité, que vaut ma parole? Quelle est la place de ma parole dans la société? Alors c'est sûr qu'il faut s'en être assuré avant de réussir à se lancer dans ce parcours-là, que je pense encore une fois ouvert à tous et à toutes.
C'est ouvert à tous et à toutes, mais vous le dites, femme issue de minorité, c'est plus difficile ou ça a été plus difficile pour vous de se sentir légitime?
Ça a été plus difficile, oui. C'est un moment très particulier, le concours d'éloquence, parce que c'est un moment où vous avez la scène pour vous. Vous avez un temps de parole qui vous est imparti, vous êtes entièrement maître de votre temps de parole. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un exercice, une possibilité qui a qui m'a été donnée précédemment plus dans une dimension plus sociale.
Nous parlons d'éloquence ce matin dans Tribu. Mon invité est Cyrine Asfour, qui a gagné donc le concours roman d'éloquence 2024. Nous allons voir s'il y a quelques conseils que vous pouvez nous donner sur des techniques peut-être pour bien s'exprimer en public. Ça sera juste après Baron Baronne.
Je suis en déni chronologique. Je bâtis des rimes morphométriques pour échapper à un monde qui est trique. Faire des voyages rétrospectifs. Wow. Y'a un truc louche dans ta sonatine. On se croise en deux spies et on s'émancipe. Tu me racontes des trucs puis tu t'émancipes. Comment tu respires dans cette étrange vie?
Je me dessine des idées de retour à un âge doré sans détour. J'ai perdu mon élégance. Dans le noir j'ai stoppé ma danse. Fumé de mes cigarettes, nos odeurs d'autrefois et mon haleine de canet. Je ferme les yeux et je nous revois. Je nous revois.
Wow. Y'a un truc louche dans ta sémantique. On se croise en deux spies puis on s'émancipe. Tu me racontes. Comment tu respires dans cette étrange vie? Y'a un truc louche dans ta sémantique. On se croise en deux spies et on s'émancipe. Tu me racontes des trucs et tu t'émancipes. Comment tu respires dans cette étrange vie?
Ces connasses d'erreurs, insensuelles, tu déformes la douceur en fureur. Tu voulais être un homme, ça nous rend bagarreurs. Il faut juste que je dorme sans toi et sans aigreur.
Je prête plus oreille à tout ce qu'on me dit. Je fais des voyages neurasthéniques. De quelques mots, je me rassasie. Avec mes lubies, on s'extasie. J'ai plus que des restes de ce que j'aimais plus jeune. J'écris des textes pour les dimanches plus vieux.
Sémantique, c'était les romans de Baron Baronne. On vous retrouve, Cyrine Asfour. Nous parlons un peu moins de sémantique, pas mal de, peut-être de rhétorique, surtout d'éloquence ce matin dans Tribu. Savoir bien parler. Vous parlez bien, Cyrine Asfour. Bon, vous avez la pression, hein, lorsqu'on fait de la radio, comme ça qu'on doit parler à la radio et que le sujet c'est l'éloquence. Ça vous met la pression?
Alors, quelque peu, c'est un exercice qui est très nouveau pour moi, très différent de ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire, puisqu'en concours d'éloquence, évidemment, c'est préparé, c'est même très préparé, ce qui n'est pas le cas de la radio, mais j'apprécie l'exercice.
Alors, vous me le disiez, Cyrine Asfour, on ne naît pas orateur, on le devient. Vous êtes devenue oratrice. Alors, est-ce que vous avez peut-être des conseils ou des techniques que vous employez pour bien parler?
Alors oui, des conseils, comme je disais tout à l'heure, deux dimensions dans la parole, en ce qui est de la forme. La première chose, la première technique, je dirais la respiration. La respiration vous aide également à manier le silence, qui est très important dans la parole, qui peut tant créer un effet théâtral que finalement imprégner votre interlocuteur de votre argument. La clé, c'est de s'entraîner. évidemment, à poser sa voix, à parler lentement, entraîner également sa posture qui joue un rôle clé de vous tenir droit, la tête haute, le regard droit et les épaules ouvertes. Vous pouvez d'ailleurs remarquer chez des personnes qui ne se penseront pas intéressantes, qui auront l'impression de vous faire perdre votre temps, que tout de suite les épaules seront recroquevillées, le regard bas et le rythme de parole très rapide. Alors, cela rejoint ce que je disais tout à l'heure, avant de convaincre, il faut avant tout se penser convaincant, ce qui est très dur, je le conçois.
C'est intéressant parce que j'ai une caméra qui me permet de vous voir en duplex depuis Paris et je vois que vous bougez un petit peu les mains. Un des conseils qu'on nous donne lorsqu'on fait de la radio, c'est de laisser courir nos mains, bouger nos mains, parce que dans le fond, on s'approche d'une certaine authenticité. Et quand je vous dis ça, je fais des grands moulinets de mes deux mains comme ça. Est-ce que là aussi, et c'est pas facile lorsqu'on est devant un auditoire, qu'est-ce que vous faites de vos mains lorsque vous parlez ?
Alors, le premier conseil, la première chose que vous apprenez, c'est plutôt de ne pas utiliser vos mains pour éviter tout geste parasite. De garder vos mains le long du corps, ce qui est dur. Dans un second temps, d'apprendre à utiliser vos mains, mais vos mains doivent servir votre parole. Doivent servir des moments clés, un rythme précis. Donc le geste s'apprend également. Je dirais que ça vient dans un second temps. Ce n'est peut-être pas la priorité dans une première découverte de la rhétorique, l'éloquence.
Est-ce qu'il y a aussi un choix à faire dans le vocabulaire ? Est-ce que il faut choisir des mots simples ou parfois tenter quelques mots compliqués pour savoir que on sait des choses ? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous devez produire un discours ?
Je préfère les mots simples pour la raison que je ne veux pas voir l'éloquence comme un domaine élitiste. Ce qui m'importe est que ma parole soit accessible, qu'elle soit facilement compréhensible. Je pense que le but ultime d'un discours en éloquence, c'est qu'il soit compris. Et que la complexité de certains mots peut-être ajoute plus de la futilité que de l'utilité au discours. Après, encore une fois, tout dépend de votre interlocuteur, tout dépend du message que vous souhaitez faire passer. Bien sûr que la complexité de certains mots peuvent parfois servir votre cause, surtout lorsque vous êtes dans une cause ou dans un discours qui nécessite d'aller dans de la technicité.
Cyril Nafsfour, vous avez étudié à Genève, je l'ai dit, mais aussi du côté de Fribourg. Actuellement, vous êtes à Paris. Est-ce que vous remarquez des différences en matière d'éloquence entre les différentes régions ?
Oui, totalement. Chaque personne, chaque candidat de ces concours, mais chaque personne dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, a son style d'éloquence. C'est vrai qu'il y a une différence, en tout cas que je remarque, entre les orateurs français et les orateurs suisses. Disons que l'orateur français a une tendance peut-être à la grandiloquence, à un amour de soi peut-être, qui se ressent, disons, différemment chez l'orateur suisse.
C'est intéressant, si vous parliez tout à l'heure des silences. J'étais marqué lorsque j'ai regardé votre conférence, votre concours que vous avez gagné d'éloquence roman de 2024. Notamment lorsque un des jurys vous posait des questions, vous preniez vraiment le temps avant de répondre. Vous preniez des notes, je ne sais pas si vous faisiez semblant de prendre des notes, mais en tout cas vous prenez le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Ça laisse, voilà, ça crée une forme d'attente. Est-ce que c'est voulu, cette espèce d'attente créée comme ça ? Est-ce que ça fait partie des techniques que vous utilisez ?
Alors, ça fait partie des techniques pour la raison que dans un discours, la première phrase que vous dites va en réalité définir l'entièreté de votre discours. Et finalement, le silence est une façon de créer une attente qui va améliorer cet effet donc de cette première phrase. Dans le cas des questions, il y a aussi relèvent d'une spontanéité totale. Bien sûr que vous avez préparé le sujet, mais vous ne savez pas à quelle question vous allez devoir répondre. Donc il y a aussi le fait de prendre le moment de réfléchir et de préparer sa réponse, qui comptera dans la notation presque tout autant que le discours que vous avez préparé.
On sait que la bataille oratoire, c'est parfois un sport de banlieue. Ça ressort dans le rap, par exemple, ou dans le slam, ça revient. Est-ce que vous pensez que la parole, la bonne manière, l'éloquence, ça peut être un ascenseur social ?
Oui, je pense que la parole peut même avoir cet effet inverse de vous trahir lorsque vous ne la maîtrisez pas, lorsque le vocabulaire peut vous trahir. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Disons juste que chaque mot a un sens, chaque mot dit de vous beaucoup, dit beaucoup de votre perception du monde, de vos positions. Donc je pense qu'une maîtrise de la parole, qu'une maîtrise du vocabulaire peut avoir un effet d'ascenseur social.
Elle est où la limite selon vous entre une personne qui maîtrise l'éloquence mais de manière efficace et quelqu'un qui est un peu un beau parleur, qui parle beaucoup mais qui dans le fond ne dit pas grand chose? Parce que parfois on peut passer pour un beau parleur alors qu'on essaye de faire dans l'éloquence, non ?
C'est vrai qu'il y a différents styles. Je pense que nous serions chacun sensibles à différents types d'orateurs. Pour ma part, je dirais que la limite se trouve dans un premier temps dans l'authenticité. Un orateur qui est authentique, disons que personnellement, je serais plus sensible à ces arguments, mais peut-être aussi que nous pouvons observer qu'il peut y avoir un certain style, un certain type d'orateur qui peuvent parfois se perdre dans une énumération de citations d'autres auteurs plus que dans la défense d'une position qui est propre. Et je pense que la limite se trouve aussi peut-être dans le fait d'apporter de soi, d'où le lien avec la vulnérabilité, la nécessité de se rendre vulnérable pour que le discours puisse avoir une portée.
En France, il y a une association qui se rend auprès des personnes détenues, donc dans des prisons, pour des concours d'éloquence. Vous m'avez dit que vous allez être bénévole pour cette association. En quoi c'est intéressant d'apprendre l'éloquence à des personnes qui sont en prison ?
Je pense que l'éloquence peut avoir une fonction sociale dans ce cas de réinsertion. Parce que l'éloquence ne sert pas uniquement au concours. En réalité, elle sert également dans la vie de tous les jours. Apprendre à bien parler, apprendre à se tenir, à maîtriser sa parole, son vocabulaire, peut tout autant vous aider dans des situations comme celle d'un entretien d'embauche, comme celle de communication avec vos proches, d'où l'apport, d'où cette fonction sociale de l'éloquence et cet apport dans la question de la réinsertion de personnes qui peuvent être détenues.
Ça peut servir dans plein de domaines, l'éloquence. À regarder votre CV actuel, vous êtes jeune, 24 ans, Cyrine Asfour, c'est étonnant. On vous pense suivre des cours de droit pour faire du droit pénal, plaider dans les tribunaux, vu que vous maîtrisez l'art de parler. Or, vous faites une spécialisation actuellement dans le droit spatial. Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit-là ?
Alors le droit spatial, ça a toujours ce petit effet de surprise. J'ai découvert cette discipline lors de mes études en relations internationales à l'Université de Genève. Donc c'est une discipline, c'est une branche, une spécialisation du droit international public. La raison pour laquelle du droit spatial, c'est parce que j'ai toujours été passionnée par la physique et par les relations internationales. Donc c'est la discipline qui permet la réunion des deux. Et j'ai découvert par la suite, notamment par la création du Swiss Space Law Forum, un forum que j'ai cofondé, qu'il commençait à y avoir un engouement en Suisse pour le droit spatial. Nous avons d'ailleurs des institutions qui s'occupent de la législation spatiale suisse, mais également de la politique spatiale suisse.
Mais ça veut dire qu'on vous verra jamais dans un tribunal en plaidoirie ?
Cela n'exclut pas d'avoir je pense que je garderai toujours j'essaierai toujours de garder une part pour la plaidoirie et pour les tribunaux.
Eh bien, on verra dans quelques années. Merci beaucoup en tout cas, Cyrine Asfour, d'être venue nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes donc la lauréate du concours roman d'éloquence 2024. Vous êtes actuellement aux études du côté de Paris-Saclay, l'université. Bonne suite de journée à vous.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
Et la technique ce matin, il y avait Luana Biadici, Alexandre Lemierre qui ouvre et ferme les portes avec talent, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Demain, nous nous demanderons si le privé est aussi politique. Tout de suite, les décodeurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite de journée.
Tribu, Julien Magnolet.
Infotrafic RTS.
Prudence sur la 5 Neuchâtel-Lausanne en raison de la présence d'objets sur la chaussée entre Grandson et l'échangeur d'Yverdon, direction de Lausanne. Dans les montagnes neuchâteloises, la route qui relie La Chaux-de-Fonds au col des Roches est toujours fermée entre le giratoire du Tourbillon et le Cré du Locle en direction de la frontière. Un accident s'est produit sur ce tronçon, une déviation est en place.
Les décodeurs, avec le théâtre du Crochetant et sa programmation du printemps, crochetant.ch.
Nous sommes le mercredi 27 novembre et vous écoutez les décodeurs. Si vous avez un enfant qui est encore à l'école primaire, vous êtes peut-être en train de foncer en voiture pour le récupérer et lui faire à manger. Et puis, il faudra trouver quoi faire puisqu'on est mercredi et le mercredi après-midi, les enfants ont congé. Alors déjà, ralentissez parce qu'on ne veut pas qu'il vous arrive quelque chose, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin de votre voiture, votre enfant sera encore là quand vous arriverez à la maison. Il n'empêche, si vous ne savez pas quoi faire avec votre enfant à midi, vous pourriez par exemple l'envoyer à la maison Pixon. Enfin ça c'est surtout si vous habitez dans le coin de Blenay-Saint-Légier. La maison Pixon nous accueille depuis lundi, ici à Blenay-Saint-Légier, avec les décodeurs et surtout notre invité, Gianni Gringali. Bonjour Gianni.
Bonjour.
Et les décodeurs cette semaine, ce sont Marc Boivin, par exemple.
Oh, bonjour, bonjour. Bonjour Marc. Yeah.
Mais vous êtes là, Marc.
Ouais, je suis là.
Et il est là, il est de nouveau là. Nicolao, bonjour.
Oh, bonjour Marie, bonjour Blenay.
Saint-Légier.
Frédéric Gérard, tiens.
Oh, mais je suis là.
Vous êtes là. Oh, vous aussi.
Mais bonjour.
Et une décodeuse, Format. Ah, bonjour.
Bonjour Blenay, bonjour Marie.
Le charme, le talent, la beauté.
Gianni Gringali, la maison Pixon, on l'a dit, hein, le mercredi, c'est aussi l'occasion de se mélanger entre plusieurs générations. J'ai là, par exemple, un programme pour les activités enfants en décembre, mercredi 4 décembre, Pixon Loisirs pour les Suisses 8 ans, bricolage d'hiver. Mercredi 18 décembre, santé monsieur, Pixon Fiesta pour les 6-12 ans, fête Noël des enfants. Et puis la visite de deux ânes, j'adore. Marc Boivin, comment s'appelle l'âne de notre Saint-Nicolas à nous?
À nous, alors il s'appelait Babalou maintenant.
Il s'appelait Babalou. Il est à la retraite cette année.
Non, il s'appelait Balou et maintenant il s'appelle Babalou.
Ah, voilà.
Au contraire, il y en a un qui est mort et en fait c'est le fils qui a repris. C'est du népotisme, hein, les organisations chez nous.
Eh bien ici, les ânes qui viendront faire la visite du Saint-Nicolas et du Père Fouettard à la Maison Pixon, ce sont Cassie et Pépito. Voilà une autre activité à la Maison Pixon. Qui organise, qui décide de ces activités, Gianni Gringali?
Alors, il y a une commission qui s'appelle la commission Pixon, mais principalement, c'est les animateurs et entre autres, le responsable de la maison, M. Patrick Cramasco, qui prend des idées et puis qui ensuite fait que les choses sont possibles, je dirais. Et puis lorsque les choses fonctionnent assez bien, ça veut dire que justement, un cours aquarelle fonctionne. Et puis tout d'un coup, cette année, ils se sont dit, on va mettre en place un cours rock'n'roll. Ça, c'est nouveau. Ils essayent et puis ils espèrent que le rock'n'roll...
De danse rock'n'roll,
ouais. Voilà.
Super.
C'est un peu comme les décodeurs, ça, c'est rock'n'roll.
Oui, alors ça, oui.
Alors ça. Pour être rock'n'roll.
1300 membres hein, pour cette maison Pixon ici à Blenay-Saint-Légier. Des membres qui payent une petite cotisation, c'est 10 francs pour les moins de 18 ans, 20 francs pour les adultes, 40 francs pour les familles. Et puis, quand on est membre, on reçoit trois fois par année la Gazette de la Maison Pixon. Alors là,
Pixon Magazine.
Oui, c'est Marc Boivin qui suggérait qu'on le rebaptise Pixon Magazine.
Oui, c'est joli.
C'est joli. Ah, oui. Et ça rappelle des souvenirs.
Ça nous rappellera des souvenirs, bien sûr.
Voilà. Donc, si vous voulez, vous aussi, devenir membre de la Maison Pixon, Eh bien, ça se trouve sur maisonpixon.ch, c'est assez simple, et vous avez vu, ça n'est pas très cher. Puis après, j'imagine que chaque activité a un petit coût.
Un petit coût, oui.
C'est ouvert à tout le monde quand même. Hein, cette, voilà.
Karaté, il y a des gros coups.
des gros coups qu'on ne porte pas, je vous signale.
Il ne prend pas souvent la parole, mais il fait bien de le faire. De
mais il y a des,
y
a des cas réussis aussi, c'est bien.
On poursuit, on joue le premier jeu de ce mercredi avec vous, Gianni Gringelli. Que signifie être enchifrené, Gianni Gringelli? C'est la question à laquelle vous devez répondre pour ce premier jeu de mercredi. Vous recevez l'aide, bien sûr, de nos décodeuses et des décodeurs, à commencer par vous, Nicolao.
Je me présente, Stéphane Hillebrand, créature de fashion, créature de tendance et créature de mode. Aujourd'hui, on demande, moi, qu'est-ce que ça bedeute être enchifrené. Alors, c'est pas compliqué, je les explique. Être enchifrené, ça le vouloir dire qu'on les être amoureux de Claudia Schiffer. Si vous les être amoureux de Claudia Schiffer, ça le vouloir dire plusieurs choses. Ein, vous êtes vieux. Zwei, vous l'avez pas vu Claudia Schiffer depuis longtemps.
Oh, non.
Drei, vous êtes une petite cochonne stupide d'encore croire qu'elle va en avoir quelque chose à foutre de vous. Stop maintenant. On passe par les autres choses. En le remerciant moi de l'avoir, s'explique vous.
Frédéric Gérard.
Oui, vous l'aurez remarqué, le monde entier le constate chaque jour, personne ne peut le nier, je suis très beau. Et à ceux qui me le rappellent, je réponds très humblement, mais c'est normal, j'ai du sang Delon. Oui. Mais oui. Ma maman, Claude-Emmanuel Delon, mon grand-père, Jean Delon, et ma grand-mère, Reine Delon, pourraient vous le dire s'ils étaient encore de ce monde. Je suis un Delon. Et parfois, c'est pas facile. Pas facile d'être aussi beau. Moi, quand je vois Nicolao qui me regarde avec ses yeux envieux, tendres, mais envieux. Marie Raillet, je vous en parle même pas. Elle pleure à chaque fois qu'on finit un enregistrement. Je vous parle pas non plus de Format qui veut m'épouser à chaque fois qu'elle me voit. Bon, il y a que Boivin qui est indifférent, mais bon, il a pas de goût, alors...
Non, puis je possède déjà presque tout, alors... J'ai tout acheté chez vous.
Voilà, donc... ben, je comprends pourquoi, quelque part. Bien sûr. Mais vous n'aurez pas mon petit sifflet. Et... Voilà, être enchefriné, c'est être beau comme feu Alain Delon.
Merci, Frédéric Gérard.
C'est bien normal.
Format.
Et ça y est, la saison est lancée. On va pas y échapper. On va tous y passer. On va tous être enchifrenés, c'est-à-dire avoir le nez rempli de moque. Et on se réjouit, hein? Vous êtes prêts pour le... Oh, mais qui n'a pas vidé ses poches? Il y a des bouts de mouchoir plein la lessive. Bravo, hein. Oui, on connaît, hein. C'est fou, ce rhume. T'as le nez bouché, c'est impossible de respirer, mais il coule quand même. Comment c'est possible? Une étude très scientifique et très sérieuse a découvert que, lors d'un accouchement, la douleur est d'une telle intensité qu'une femme pourrait presque parvenir à imaginer la souffrance d'un homme qui a le rhume.
C'est quand même assez vrai, les mecs. Attendez, on pleure quand même assez facilement.
Non, vous vous retenez de pleurer, justement, c'est encore pire. Marc Boivin.
Enchifrené, c'est un néologisme inventé par Frédéric Dard dans un San Antonio paru en 1978, intitulé « Vol au-dessus d'un lit de cocu ». Alors, chez San Antonio, c'est l'art du titre. Hein. Il était là dans de grandes décennies. On se souvient, en 1976, de « Remets ton slip, gondolier ». Et également « Concerto pour Porte Jartel », enfin des grands titres. Et en 1978, eh bien, on apprend dans ce fameux livre « Vol au-dessus d'un lit de cocu » que Berrurier, s'est retrouvé enchifrené, à savoir qu'il a été soudainement assailli par une violente crise de calculs rénaux. Calculs, chiffres, il s'agit là d'un calembour néologique de Frédéric Dard.
Gianni Geringhelli, que signifie être enchiffrené ? Nicolas O, vous nous dites que c'est être amoureux de Claudia Schiffer.
Oui.
Vous avez vu récemment Claudia Schiffer ?
Oui.
Ah, c'est quelque chose encore quand même. Frédéric Gérard, c'est être beau comme Alain Delon, d'après
tout à fait.
Vous ?
Ou comme Frédéric Gérard,
c'est
comme...
Oui, c'est pareil finalement. Hein. Format pour vous, ce serait plutôt avoir le nez rempli de moques. Et pour Marc Boivin, c'est ça à voir avec les calculs rénaux.
D'être tordu de douleur.
Oui, d'être tordu de douleur.
Az mon berrurier.
Gianni Geringhelli, d'après
moi,
vous, qui dit vrai.
Moi, je penserais pour Marc Boivin. Peut-être elle était jolie.
Mais je vous fais une petite concession. Enchiffrené apparaît dans Vol au-dessus d'un lit de cocu. Pour la première fois dans l'œuvre de Frédéric Dard. Mais qui veut dire, c'est pas tout à fait le même synonyme que la vraie réponse qu'on a donnée ici, plutôt renfrogné maussade pour Frédéric Dard.
Alors que la
Mais
définition...
Mais comparable à quelqu'un qui a le rhume et la grippe quand même, il le dit aussi.
Voilà, la définition qu'on cherchait aujourd'hui, c'est celle de format enchiffrené, veut dire être, avoir un nez encombré par un rhume. C'est plus joli que de dire avoir le nez rempli de moque.
C'est moins rigolo.
Format. Mais au moins, ça avait le mérite d'être clair. Eh bien, on en reste à 12 points. C'est le premier que vous ne marquez pas aujourd'hui. Gianni Geringhelli, on applaudit l'effort, quand même.
A fine romance, my good fellow. You take romance, I'll take jello. You're calmer than the seals in the Arctic Ocean. At least they flap their fins to express emotion. A fine romance with no quarrels, with no insults and all morals. I've never must a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is true love. Should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance with no clinches. A fine romance with no pinches. You're just as hard to land as the Ile de France. I haven't got a chance. My heart's not made of plastic. You're the reason I'm sarcastic. Cause this is a fine, fine
Vous allez pouvoir vous rattraper avec votre question à vous, Gianni Geringhelli. C'est le moment de votre défi du mercredi.
Ici à Blenay, j'habite au chemin de Fosse-aux-Lions. Pour quelle raison ce chemin a ce nom ?
Fosse-aux-Lions ?
Oui.
C'est la plante à cause de la dent de lion ?
Non. Ah, ça aurait
pas
pu.
Mal.
Mais c'est Fosse-aux-Lions ou Fosse-aux-Lions ?
Fosse-aux-Lions.
Une fosse avec des lions dedans, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Et vous me demandez quel est le rapport ?
Ouais.
Il y aurait un lien avec une sculpture quelconque ou une moulure quelconque ?
Non.
Mais lié avec l'animal ?
Non.
Il y a toujours quand même le petit esprit revanchard du vaudois par rapport aux Bernois. Ils ont une fosse aux ours, on va faire une fosse aux lions, etc. Ils ont toujours été comme ça.
Non.
Va pas. Il semble.
Non, mais ils sont venus, mais ils sont repartis déjà, les Bernois.
Oui. Est-ce que c'est Lyon pas... avec un Y par hasard?
Non, ça s'écrit Lyon.
Ça s'écrit Lyon comme Lyon, quoi, comme les lions.
Pas comme la ville.
Pas comme la ville, ouais, d'accord. Ouais, ouais.
Est-ce que c'est Lyon l'animal, mais un lion de mer, par exemple, qu'on aurait retrouvé dans le lac Léman?
Non.
Est-ce que c'est Lyon le verbe avec un S à la fin? Parce que
non, il n'y a pas de S.
Ça a rapport avec le caractère, un peu genre. Non.
C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres maisons disponibles pour vous, peut-être, tout simplement. Voilà.
À Blenay, on a la chance, on a un livre qui est avec le glossaire du patois de Blenay, qui était sorti en 1910. Et fossoyant, il faudrait plutôt le procéder. Fossoyant, ça veut dire le petit fossé, simplement.
C'est
joli. Mais il y a, si jamais, tout ce livre de Louise Audin qui avait fait ce livre, ce glossaire de tous les mots de Blenay. Bien sûr, il y a beaucoup de mots qu'on n'utilise plus, de patois, parce que c'était beaucoup de mots qui venaient de l'agriculture et tous des mots d'outils et autres que, enfin, on n'utilise plus. Parce que, voilà, si vous avez vu, Pixon a été construit sur une ancienne ferme, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de vaches à Blenay.
Vous avez été enseignant, Gianni Gringalli. Est-ce que c'est des choses que vous aimiez apprendre à vos élèves? Qu'est-ce que vous avez enseigné déjà, pour commencer?
Ouais, justement, principalement français, géo, histoire.
Gymnastique, non?
Plus souvent que je pouvais, je vais essayer de sortir et de...
Et d'aller à la voir, fosse au Lyon, par exemple.
Par exemple, ouais. Oui, mais d'aller expliquer deux, trois lieux qui étaient comme ça. Oui.
Donc l'origine des choses, l'étymologie des mots, c'est quelque chose que vous alliez transmettre.
Voilà, tout à fait. Oui.
Est-ce qu'on le fait encore assez aujourd'hui, vous avez l'impression?
Ça fait assez longtemps que je suis un petit peu parti de l'école, mais il y a toujours des enseignants qui le font encore. Oui.
Vous donnez des cours encore?
Non, je fais principalement des balades historiques encore avec des élèves, mais autrement, et puis je fais encore une série de Kunstskis de fond avec qui pour un peu leur faire découvrir un peu la nature et autres.
Mmh. Voilà. Avec la maison Pixon, des camps de ski?
Non, c'est plutôt avec les écoles de Blenay, puis les écoles de la Tour de Paix.
Vous avez été très actif au sein de la commune de Blenay-Saint-Légier. Vous étiez au conseil communal pendant quoi, 36 ans?
36 ans, oui.
36 ans au conseil communal, et puis vous avez aussi été président de la commission culturelle pour la Micro. C'est vous qui avez décerné certains prix culturels.
Oui, là, oui. Alors, c'était une période assez intéressante parce que j'ai vu un peu la diversité, le nombre de gens qui s'impliquent pour des projets. Et ça, c'était assez magnifique, tout le nombre de projets qu'on a dû décider. Malheureusement, des fois, presque, il y avait trop de projets, puis on pouvait malheureusement pas tous les soutenir avec le pourcent culturel. Mais c'était vraiment une belle période. Et puis surtout, ce que j'essayais de faire, c'est que lorsqu'on avait subventionné ou donné un prix pour un spectacle et autres, j'essayais d'aller voir le spectacle si c'était possible. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse diversité culturelle. Et on peut vraiment dire que c'est assez génial de vivre dans ce beau pays, parce que le 27 novembre, en 1847, ça fait 177 ans qu'il n'y a plus de guerre en Suisse. Et ça, ben, il faut continuer à faire vivre la culture.
Sans magnifique. Compter les matchs de hockey. Hein.
Oui.
On a gardé la petite exception quand même.
Magnifique.
On a gardé cette exception.
Là, je suis hockey avec vous, c'est bon.
Et puis, si j'ai bien lu, la maison Pixon a reçu 5000 francs du
pourcent culturel
de la Migros.
Voilà. Oui.
Ça n'a rien à voir avec vous, bien sûr.
Mais c'était lorsqu'il y a eu l'ouverture du nouveau magasin Migros à Blenay.
Alors, ils ont une prochaine nuit des comptes. Je pense qu'ils vont régler le problème. C'est là que vous allez un peu cliquer sur les enfants.
Oui, il y a un problème d'orthographe, mais on va régler ça.
13e point pour notre invité. Bravo, Gianni Gringalli. Bravo. Et voici un nouveau choix musical de notre programmateur cette semaine, Willy Deselu. Nous allons écouter la plus francophone des Tessinoises. Voici Julie Meletta sur RTS Première. On se retrouve juste derrière pour la suite des Decodeurs.
La ville est cruelle, où qu'on aille, les vitrines me reflètent, mes entailles, la fugue éternelle. J'y refais, mais les bêtises font les mêmes histoires, et toi tu me fais avoir envie des dangers. Alors prends l'argent, vas-y, et enfuis-toi, et enfuis-toi. Je démarrais rapide, kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la fois j'ai menti. J'ai triché pour sentir. Ne serait-ce qu'une poignée de désir et danger. Et alors prends l'argent. Toi, je démarrai rapide. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. À la folie, à l'interdit, on voit là un baiser. Kiss goodbye. À la folie, au cœur qui crie.
La première, les décodeurs avec Marie Riley.
Et un nouveau mot pour vous, Gianni Ghiringhelli. Vous devez à présent savoir quel décodeur ou décodeuse vous explique ce qu'est réellement l'acrostiche. Qu'est-ce qu'un acrostiche ? On commence avec vous, Format.
Alors attention, c'est un texte dont les premières lettres de chaque verset forment un mot lorsqu'on les lit à la verticale. Et ça peut être utilisé si on veut cacher des petits messages. Alors, moi, ça m'intéresse de transmettre des petits messages cachés. Je me suis prise au jeu et j'ai écrit un poème pour mon voisin. Et on va essayer de jouer ensemble, voir si vous êtes capable de décoder mon petit message. Vous êtes prêts ?
Oui.
Cher voisin du cinquième, monsieur Lathion, on respecte votre voix de baryton. N'est-ce pas un peu exagéré tous les matins de brailler « Ne partez pas sans moi pour tout le quartier ». Alors, pour la santé mentale de l'immeuble locatif, retenez-vous et évitez un massacre collectif. Des bisous.
Ouais. C'est bien ces messages cachés.
C'est beau, c'est tellement
ouais,
d'amour.
C'est beau, ouais.
Marc Boivin.
Ah. Plus avec, il risque de pas le comprendre celui-là.
Hein. C'était peut-être un peu dur, hein.
Ouais. Alors, un acrostiche est un acrobate qui, comme son nom l'indique, se produit sur une table.
C'est un Bernois.
Bernois. Quoi ? Mais oui.
Je note.
Donc il grimpe sur la table en s'aidant d'une chaise. Et c'est très impressionnant. Et là, il se tient debout en écartant les bras et tout le monde applaudit. Après, il peut aussi jongler avec des assiettes. Ça, moi, j'ai pour y avoir assisté à ça une fois, je trouve que le numéro est quand même plus sympa quand c'est à la fin du repas. C'est un petit conseil. Hein. Quand c'est un repas de la Bénichon ou de la Saint-Martin, il faudrait pas qu'il commence à jongler avant 16h, 16h30, je dirais. Voilà. J'ai un petit quiz sur le cirque. C'est à peu près pour interrompre un peu cette définition. Vous êtes prêts ?
Oui.
Vous aimez bien le cirque aussi,
oui,
l'art
oui,
circassien.
Oui, oui, oui.
Tout ça.
C'est très beau, ça.
Alors, 100% des clowns qui ont des cloques aux doigts de pied sont des mythomanes.
Oui, ça c'est juste.
C'était vrai. Le cirque CNI et le cirque NOC vont fusionner.
Faux.
Non, c'est vrai. Ça va devenir le cirque NIC qui proposera des spectacles pour les adultes. Des activistes du climat ont jeté un verre d'eau sur le cracheur de feu du Cirque du Soleil.
Ah, ça c'est vrai, ça.
Ça c'était vrai. Le clown Temesta est la vedette du Cirque du Sommeil.
Ouais, ça c'est... Ah ouais, ça, elle est vraiment bien celle-ci. Et bon, c'est vrai.
Le cirque d'hiver possède une girafe bleue.
Qui mange des bananes bleues, ça.
Non, elle est bleue, c'est vrai, effectivement. Il faudra vraiment qu'il pense un jour à monter le chauffage. Le cirque d'automne possède un filet qui retient la chute des feuilles.
Ça va être un gros filet. Mais...
C'était n'importe quoi. À force de tourner en rond, les chevaux de cirque font du crottin en spirale.
Ça, c'est sûrement vrai. Ça,
c'était vrai.
C'est un très
et
bon
enfin,
engrais.
Mais... Le premier funambule à avoir tenté la traversée sur un fil entre le Mont Pèlerin et les Rochers de Naye est enterré à Blonay.
ça c'est vrai, ça.
C'est vrai, effectivement. Je ne nous indique pas le lieu de la tombe, elle est située pile au lieu d'impact. Voilà.
C'est...
C'est terminé.
Merci. Nicolao.
Mais puisque je te dis que c'est moi. Non mais c'est quand même incroyable que tu me reconnaisses pas. C'est quoi cette histoire? On s'absente quelques années, quand on rentre à la maison, plus personne vous reconnaît. C'est fou ça. Ben oui, j'ai vieilli. Forcément j'ai vieilli. En 10 ans, on vieillit. Qu'est-ce que tu veux? Et permets-moi de te dire, Pénélope, que toi aussi tu as non, rien du tout. Toi t'as pas bougé. Tout pareil. T'es belle. Allez, ouvre-moi, Pénélope, s'il te plaît. Non, parce que là, je te cache pas que j'aimerais bien prendre une petite douche. Je sens le cheval. Quoi, t'es pas sûr que je suis moi? Mais si j'étais pas moi, comment je saurais que t'as un grain de beauté sur la hanche, du côté gauche? Comment ça, tout le monde le sait. Il s'est passé quoi ici exactement pendant ces 10 ans, là? T'as fait du tricot? Mais oui, bien sûr. Allez, c'est fini les bêtises. Hein. Maintenant, tu m'ouvres la porte, allez. Tu veux que je te prouve que je suis bien Ulysse? Et veux-tu bien me dire comment je vais faire ça, Pénélope? Je dois tirer une flèche à travers 12 haches alignées. Oui, je me souviens très bien qu'à l'époque, je t'ai dit que c'est ce que je faisais. Mais justement, je te l'ai dit. Hein, alors si tu veux, je peux te le redire. Par contre, le refaire, ça va être un petit peu plus compliqué parce que pour le refaire, faudrait que je l'ai déjà fait au moins une fois. Tu vois, c'est des. Oui, bah il est possible que je t'ai un peu menti, mais bon, hey, c'est comme ça que tu m'aimes, hein, bébé. Pénélope, s'il te plaît, j'ai gagné la guerre de Troie, j'ai combattu des sirènes, des cyclopes, des dieux et des acrostiches. Quoi? Qu'est-ce que c'est des acrostiches? Bon, des acrostiches sont des créatures mythiques, mi-homme, mi-bouc, mi-aigle. Ouais, il y a 3 moitiés, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Non, allez, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. J'ai donné la définition, là. Je peux rentrer? Merci.
Et finalement, Frédéric Gérard.
Mais oui, acrostiche de Accra. Un beignet de poisson ou de légumes que l'on déguste dans la cuisine créole et de postiche, n'est-ce pas? Un acrostiche est un porte-bonheur en poils en forme d'acra. Et comme les acras ont toutes sortes de formes, on peut décrire l'acrostiche comme un petit machin en poils qui porte bonheur. Le fier baigneur créole ne se sépare jamais de son acra poilu, hein, pour ne pas être assommé, voire emporté par le rouleau d'une mer déchaînée. Ouais, les rouleaux sont puissants par là-bas, j'en ai fait l'expérience en Guadeloupe. Ils sont même très dangereux au printemps. Voilà, un acra pour se protéger d'un rouleau de printemps. N'est-ce pas savoureux? L'acrostiche vient bien sûr de la religion vaudou, hein, tout comme le papet, le célèbre papet vaudou.
Qu'est-ce qu'un acrostiche, Gianni Ghiringhelli, pour Forma? C'est un texte composé pour que les initiales de chaque vers constituent un mot. Marc Boivin, pour vous, c'est un acrobate qui se produit sur une table. Nicolas O, ce sont des créatures mi-homme, mi-bouc, mi-aigle.
Voilà.
Et Frédéric Gérard, pour vous, c'est la contraction d'acra et de postiche. C'est un porte-bonheur en poil, l'acrostiche. Mais vraiment, parfois j'ai honte de devoir tous vous résumer. Gianni Ghiringhelli, qui dit vrai.
Alors, qui dit vrai, c'est Forma qui dit vrai.
Ouais, à mon avis, il faudrait.
Alors, j'aimerais savoir qui dans le public, quelle est l'unique personne qui a voté pour Frédéric Gérard? Dénoncez-vous.
Voir la main, là.
Personne n'ose se dénoncer.
C'est une erreur de.
Et vous faites bien. Le public, hein, qui vote avec nous en très très grande majorité pour Forma, mais quand même une personne pour Frédéric Gérard, comme quoi. Mais c'est peut-être une erreur. Hein, ne le prenez pas non plus comme une confirmation,
c'est
Frédéric Gérard.
C'est un signe d'amour, c'est tout.
14e point pour notre invité. Félicitations, Gianni Ghiringhelli. Bravo. Des informations, Gianni Ghiringhelli, dites-nous, donc qui mangent ici aussi les enfants tous les jours?
Oui, tous les jours. Il y a jusqu'à 140 enfants qui mangent à midi ici. Donc,
à partir de quel âge?
À partir de 7 ans.
7 ans.
Jusqu'à, parce qu'il y a plusieurs lieux maintenant, jusqu'à de 7 à 9 ans principalement. que c'est les gens qui mangent ici.
Donc il y a une cuisine ici avec, j'imagine, du personnel qui fait à manger directement sur place.
Non, c'est pas, ça veut dire que les gens, s'il y a une...
Oui, vous avez les sous-titres. En fait, il y a Pierrick qui est le responsable de la maison Pixon qui vous fait des signes. C'est pas facile parce qu'il fait beaucoup de signes avec beaucoup de doigts en même temps. Alors, 10 enfants. Non, 20 enfants. Ah, jusqu'à 10 ans, 5. Je comprends rien à ce que vous dites. Il va falloir qu'on va en parler, vous et moi, pendant les informations. Si vous êtes d'accord, on les écoute. Et puis juste après, je traduirai tout ça. Faisons cette pause. Bienvenue.
RTS La Première vous offre l'heure.
Sur RTS Première, il est midi.